voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Sophie Rabhi a fondé une école qui pratique la pédagogie de la bienveillance au cœur d'un éco-village pédagogique en Ardèche, un cadre idyllique pour une approche résolument tournée vers l'enfant. Plus récemment, l'école baptisée la Ferme des Enfants est devenue une école démocratique. Dans cette deuxième émission, La Voix du Kaizen, Sophie nous parle de cette transition et nous présente le fonctionnement de l'école. On va revenir aujourd'hui, donc à la Ferme des Enfants. Tu disais que vous êtes passé sous le statut d'école démocratique. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une école démocratique, d'où ça vient et comment ça fonctionne ?
Alors, la première fois que j'ai entendu parler des écoles démocratiques, c'était concernant une très vieille école qui a été fondée en 1921 et qui s'appelle Summerhill, qui est dans le sud de l'Angleterre. Et ça a été longtemps mon livre de chevet, Libre enfant de Summerhill, parce que je trouvais que cet homme qui avait fondé cette école était extrêmement bienveillant à l'égard des enfants, même d'une bienveillance presque qui défie l'entendement, puisque lui, il accompagnait vraiment les enfants au bout de leur colère, au bout de leur mécontentement, et d'une manière complètement presque surnaturelle. Et donc ça m'a beaucoup fascinée, cette question de laisser les enfants libres à ce point. Et en fait, j'avais mis ça un petit peu de côté en me rangeant plutôt dans la pédagogie Montessori, assez plus facile à assimiler, à la fois pour moi et puis pour mon entourage et puis pour les familles que j'accueillais dans mon école. Et en fait, cette question de l'école démocratique a ressurgi plus récemment. Il y a maintenant un phénomène exponentiel, je dirais, d'ouverture d'écoles démocratiques, puisque la première en France a ouvert en 2014, la deuxième en 2015 à Paris, et puis en 2016, on était déjà une dizaine d'écoles, dont la nôtre. Et pour la rentrée prochaine, il y a plusieurs dizaines d'écoles qui sont sur la piste de décollage là, pour ouvrir. Et le modèle qui revient beaucoup, c'est le modèle Sudbury qui vient des États-Unis et qui est plus ancien que, enfin plus récent plutôt que Summerhill, puisque ça date plutôt de la fin des années 60, et où pour la première fois on a vu effectivement des élèves qui n'étaient aucunement contraints à apprendre. On leur propose d'apprendre, on les accompagne dans leurs apprentissages, mais ce sont eux qui choisissent leurs apprentissages tout à fait librement. Donc, s'ils veulent jouer, ils jouent. S'ils veulent bavarder, ils bavardent. S'ils veulent être dehors, ils sont dehors. S'ils veulent aller lire, ils vont lire. Enfin, chacun est libre de circuler dans une structure qui propose un certain nombre d'activités. Les activités qui n'existent pas encore dans la structure peuvent être créées par les élèves. Hein, c'est-à-dire que s'il y a un élève qui veut faire du piano, puis il n'y a pas de piano, ben, il y a un organe de gouvernance qui permet de déposer des demandes et de voir comment on peut faire l'acquisition d'un piano, par exemple. Et ce sont les élèves qui gouvernent dans l'école, c'est-à-dire que les décisions sont prises par tout le monde, tous les citoyens. Alors nous, on les appelle des citoyens. Souvent, ce sont des membres dans les écoles démocratiques, comme dans une association. Donc, ces citoyens ont tous un droit de vote. Chez nous, ils ont aussi un droit d'objection, puisqu'on fonctionne au consentement. Donc, les décisions sont prises au consentement. Alors que très souvent, dans les écoles démocratiques, c'est la majorité. Et chacun aussi a le droit de prendre des initiatives à valider ou non par le conseil d'école, suivant que ça impacte le collectif ou non. Donc, il y a une très grande liberté, une très grande responsabilité de chacun. Chacun est vraiment invité à être responsable à la fois de ses actes et de ses propres apprentissages. Et pour réguler les actes des uns et des autres, les comportements, eh bien, il y a soit un conseil de justice, dans la plupart des écoles démocratiques, c'est comme ça qu'on l'appelle. Nous avons choisi le conseil de médiation, qui est plus dans la culture communication non violente, Rosenberg, qui est très cher à mon cœur, puisque ça fait depuis 18 ans que je me forme et pratique la communication non violente, et que je trouve que c'est un outil qui a énormément de vertus dans un collectif, et notamment avec des enfants. Donc nous, on pratique le conseil de médiation. On a un petit peu abandonné la notion de justice conventionnelle où il y aurait des victimes et puis des accusés ou des coupables, enfin, etc. Donc tout ça, c'est pour moi encore de la dualité et je préfère largement l'esprit de la médiation où il n'y a que des médiants, il y a un problème au centre et on va essayer de trouver une solution gagnant-gagnant.
Sophie, tu disais que l'apprentissage se fait mieux quand l'enfant se sent libre. Donc l'école démocratique, c'est un peu ça. Chacun est libre d'apprendre ce qu'il veut quand il veut. Mais ça paraît incroyable. Concrètement, comment ça se passe? Il y a quand même, j'imagine, un programme ou des compétences à acquérir avant un certain âge ou pas du tout? On est vraiment là et chacun choisit d'apprendre ce qu'il a envie.
Chacun choisit d'apprendre ce qu'il a envie. La seule chose, il y a des règles qu'on ne peut pas transgresser, ou disons si on les transgresse, il va y avoir des conséquences. Mais ce sont des règles c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un, citoyen, nuit à la liberté d'autrui, là, il va y avoir une barrière éventuellement qui va se poser. Mais dans l'apprentissage, on considère que apprendre, c'est l'espace de liberté et de légitimité de chacun, et que nous n'avons pas à prendre le pouvoir sur cet espace-là. Et d'ailleurs, juste pour faire une analogie, je pense que c'est quelque chose que l'on peut entendre assez facilement concernant les adultes. C'est-à-dire si demain le gouvernement disait il faut que chaque citoyen français connaisse parfaitement la Constitution européenne, l'histoire de l'Europe, et ça, je parlais le mandarin parce que c'est la langue du futur, on aurait l'impression d'être dans une dictature. Ou connaissent le petit livre rouge ou je ne sais quoi. Voilà, on aurait vraiment l'impression d'être dans une dictature, mais on ne se rend pas compte que c'est cette dictature que l'on impose aux enfants finalement. Bon, alors on ne l'appelle pas comme ça, elle a un autre nom. En leur donnant l'ordre, hein, l'injonction d'apprendre les mathématiques, l'anglais comme première langue, la grammaire, la conjugaison, etc., etc. Donc, oui, les enfants sont vraiment libres d'apprendre tout ce qu'ils souhaitent apprendre, mais finalement, tout ce qu'ils apprennent vient nourrir le socle commun. C'est comme ça qu'on s'y retrouve avec l'institution et les directives ministérielles auxquelles nous n'échappons pas en tant qu'école.
Comment ça se passe par rapport à cette directive? Donc, quand tu as le statut d'école alternative, démocratique, Montessori, ou quel que soit le statut que tu utilises, il y a quand même toujours un lien avec l'éducation nationale qui envoie des inspecteurs?
Absolument. À partir du moment où on existe en tant qu'école, eh bien, nous sommes immatriculés par l'éducation nationale et l'éducation nationale peut à tout moment envoyer la visite d'inspection pour voir les conditions d'apprentissage que nous offrons aux enfants. Et nous sommes dans une obligation de moyens, donc pas dans une obligation de résultats.
Qu'est-ce qui se passe quand l'inspecteur arrive ici?
Ce qui a été nouveau depuis 2011, ça a été d'avoir aussi les inspecteurs régionaux, donc les IPR qui viennent pour inspecter le collège, parce qu'en 2011, nous avons ouvert l'école au plus de 11 ans, de 12 ans. Et ça s'est toujours très très bien passé dans le sens où nous avons témoigné de ce que nous faisons et ils se sont montrés curieux et tolérants par rapport à ce qui se fait et ce qui se vit ici.
Parce que c'est vrai que ça pourrait être un lieu très inspirant. On essaie d'expérimenter d'autres modes de vie, d'autres façons d'enseigner. Est-ce que tu as l'impression que ça peut avoir un impact sur l'éducation nationale? Est-ce qu'elle se transforme? Est-ce que le système éducatif est en train de se transformer? Est-ce que tu vois un changement grâce aux initiatives qui sont mises en place comme la tienne ou comme dans d'autres écoles?
Alors, j'ai eu la surprise d'apprendre que dans le dernier programme 2016, le nouveau programme de l'éducation nationale, il y avait 7 ou 8 fois le mot bienveillance. Donc ici, la ferme des enfants, ça s'appelle aussi la pédagogie de la bienveillance. Donc je vois que c'est un mot qui circule bien et ça me ravit. Et je dirais que l'impact que nous avons sur l'éducation nationale se fait plus par les enseignants eux-mêmes qui viennent se former chez nous. Donc chaque année, il y a en gros, on a 100 à 120 stagiaires qui viennent se former en pédagogie, même un peu plus, et la moitié, on va dire, vient de l'éducation nationale.
Formation aussi auprès des enseignants, mais est-ce que aussi auprès des parents?
Alors les parents aussi sont bienvenus dans nos formations, ils sont bienvenus en tant que parents quand on inscrit son enfant ici, eh bien on a aussi un travail à faire de son côté pour mettre de la cohérence entre l'accompagnement de l'enfant à la maison et l'accompagnement à l'école. Donc on offre certains espaces comme le café des parents qui a lieu une fois par semaine, qui permet aux parents de venir un peu déposer leurs difficultés, leurs réflexions dans leur relation avec leurs enfants. Et puis, bien sûr, chacun est invité à cheminer à sa manière pour trouver cette cohérence. Et c'est surtout de la cohérence émotionnelle dont on a besoin souvent, c'est-à-dire de voir que notre enfant va déclencher pas mal de réactions qui sont en toute la plupart à mettre en lien avec ce que nous avons reçu en tant qu'enfant. Et que d'aller regarder ça, c'est indispensable pour pouvoir changer notre regard sur l'enfant et surtout changer la qualité de notre accompagnement.
Quels sont les parents qui vont venir ici, qui vont mettre leurs enfants ici? Est-ce que tu as des parents qui viennent de loin? Est-ce que tu as une histoire de parents à me raconter?
Alors oui, il y a des parents qui viennent vraiment de loin mettre leur enfant ici. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que 95% des familles qui arrivent ici ont déménagé pour se rapprocher de cette école-là. Et donc c'est un choix fort pour la famille. Ce sont des familles qui vont mettre en priorité l'accompagnement de leur enfant dans leur vie, donc ils sont prêts à quitter un foyer, une profession, des amis, pour venir s'installer autour de l'école, donc c'est pas rien. L'école privée hors contrat, ça parle assez peu aux autochtones ici, parce que c'est une école qui va être prise en charge quasiment intégralement par les familles, qui payent des mensualités pour que l'école puisse fonctionner. Donc nous avons aussi des dons, mais beaucoup du budget de la famille qui nous permet de fonctionner.
C'est un vrai choix, c'est une vraie implication de la part des parents. Ça va donc du coup impliquer un coût aussi économique à ces parents.
Ah oui, les parents sont investis à tous les niveaux et ils viennent aussi aider dans l'école. Donc c'est pas une école parentale, mais les parents sont très sollicités pour venir aider dans l'école s'ils le souhaitent. Donc il y en a qui font des ateliers, qui participent à la cantine, qui font le ménage, qui font du bricolage, pour que l'école puisse fonctionner avec le petit budget dont elle dispose. Parce que c'est assez ridicule, hein. On est vraiment très très en dessous de ce que coûte un élève dans l'éducation nationale. On est à moins de la moitié. Donc pour fonctionner, on a besoin de toutes les énergies disponibles, qu'elles soient financières, humaines, matérielles aussi. On se fait donner du matériel pour fonctionner.
Sophie, on est en radio, donc j'aimerais que tu nous donnes une dimension visuelle, que tu nous parles de la journée type d'un enfant. Comment est-ce que ça va se passer? Raconte-nous le matin, qu'est-ce qu'on va y faire. Donc peut-être prendre soit un garçon, soit une fille, donner son âge et nous parler de sa journée ici, au sein de la ferme des enfants.
Alors, depuis que nous sommes en école démocratique, les enfants vivent des journées très très variées, hein, selon qui ils sont et ce à quoi ils aspirent. Mais par exemple, il y a deux ados qui sont là depuis très longtemps, depuis des années, donc qui ont vécu le changement avec nous. Ça n'était pas facile pour elles, d'ailleurs, de passer de Montessori à l'école démocratique. Elles ont eu un grand moment de déstabilisation. Et ces ados-là, elles sont très investies dans la structure. Elles s'occupent des poneys. Elles sont passionnées par les chevaux. Donc, tous les matins, en arrivant, ce sont ces deux-là qui vont nourrir les poneys. Donc, elles vont distribuer le foin, prendre contact avec les poneys. Ensuite, assez souvent, elles se retrouvent dans la salle à manger pour dire bonjour à tous leurs amis, aux volontaires européens, aux services civiques avec qui ils ont lié beaucoup d'attachements aussi. Parfois, on discute un peu, il y a des échanges qui se font, on parle de la journée, de ce qui va se passer dans la journée, dans la semaine, quelles sont les actualités. Et puis, elles apprécient ensuite soit de rejoindre un cours de français ou un cours d'anglais.
Mais sur demande, ça va être, tiens, aujourd'hui je vais apprendre l'anglais, donc je vais aller voir la personne référente qui va pouvoir me l'enseigner, ou comment ça va se passer?
En général, il y a quand même des jeunes qui sont engagés sur certains cours. Okay. Mais il n'y a pas un engagement formel, c'est l'heure entre soi et soi. C'est-à-dire que ces ados-là, elles savent à peu près où elles veulent aller. Donc il y en a une qui a le projet l'année prochaine de passer l'examen d'entrée en seconde. Donc pour elle s'est dit, ma priorité, ça va être telle et telle matière et je vais y aller régulièrement.
Mais donc il faut vraiment que les enfants soient curieux, la curiosité est primordiale dans ce système démocratique.
Oui, mais la curiosité, c'est complètement naturel. Et si elle n'a pas été malmenée justement par une injonction d'être curieux ou d'apprendre, et si elle est encore pleine et entière, cette curiosité, elle fonctionne très bien. Les enfants qui se détournent de l'apprentissage Le plus souvent, ce sont des enfants qui ont été malmenés. C'est-à-dire, on leur a dit, maintenant, c'est l'âge où tu dois apprendre à lire. Maintenant, tu dois savoir compter. J'ai peur quand tu ne sais pas compter. J'ai peur quand tu ne sais pas lire. Et quelle est ta note? Et ton enseignant m'a dit que tu devrais voir un professionnel parce que tu n'articules pas tout à fait bien ou parce que tu ne sais pas encore... tu confonds les lettres, etc. etc. Donc, il y a toute une pression, tout un système... de pression qui se met autour de l'enfant et qui finalement vient générer beaucoup d'inquiétude et fermer des connexions qui sont celles de la curiosité, de l'enthousiasme, de la liberté, etc. Et l'enfant finalement va se détourner, il va trouver ça assez pénible et il va se détourner de l'apprentissage. Donc la curiosité, ça va de soi. Et donc pour reprendre le fil de la journée... ces adolescentes qui ont choisi de faire certains apprentissages le font. Il y a parfois des jours où elles disent oh là là, moi aujourd'hui j'ai pas le moral ou j'ai pas la tête à ça et j'y vais pas. Et puis souvent elles se mettent à la médiathèque pour étudier des documents, regarder sur internet des choses qui les intéressent. Et puis elles participent à la vie de l'école sur plein de dimensions. Donc ça peut être l'accompagnement de plus petits. Il y a des maternelles des fois qui ont besoin d'un câlin ou qu'il y en a un qui s'est fait mal, etc. Donc elles sont toujours prêtes à intervenir. Parfois elles sont appelées en médiation parce que tous les jours de 10h30 à 13h, il y a des médiations. Donc on passe beaucoup de temps à ça et puis forcément il y a des citoyens qui défilent hein, en yurte des médiations. Et l'après-midi, il y a beaucoup d'ateliers qui sont proposés, même le matin, mais l'après-midi encore plus. Donc, ça peut être... voilà, je sais qu'en ce moment, par exemple, cet après-midi, il y avait un atelier dessin au henné sur la peau. Donc ça, ces ados-là, elles adorent ça. Ou faire des atébas dans les cheveux. Ou le lundi, il y a l'atelier théâtre, donc elles sont comédiennes aussi. Et puis, certains jours de la semaine, il y a de la gymnastique acrobatique. Donc, elles y vont aussi. Voilà, donc il y a un emploi du temps qui permet de se relier à un certain nombre d'activités, mais au libre choix.
Mais j'imagine qu'il y a des matières qui ne sont pas du tout demandées. Donc là, on parle beaucoup de côté créatif ou artistique, le théâtre, le dessin. Mais les maths, la physique, les sciences, c'est beaucoup plus barbant, ça. Alors, est-ce qu'on va quand même naturellement vers ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement mis de côté?
Alors, on va naturellement vers un certain nombre de données mathématiques dont on peut avoir besoin dans la vie de tous les jours. On a besoin de compter de l'argent, on a besoin parfois de faire des pourcentages pour comprendre les soldes ou ceci, cela. Voilà, on peut faire des pourcentages. On a besoin de faire de la proportionnalité parce que, par exemple, tous les jeudis, ils font des crêpes et des gaufres. Donc, ils ont besoin de regarder des recettes et puis de multiplier par le nombre de... deux fois qu'ils veulent dupliquer la recette pour le nombre de convives, etc. etc. Donc, quand on fait des fromages de chèvre, on fait des fractions. Quand on fait du pain, eh bien, on est amené aussi à utiliser les mathématiques. Et puis, pour construire un petit bâtiment, parce que, par exemple, ce sont les enfants qui ont construit la petite guinguette où ils servent les crêpes et les gaufres, ben, on va calculer du débit de bois. C'est toujours relié à quelque chose de pratique. Et après, il y a ceux qui choisissent de faire des mathématiques abstraites, mais ils sont très peu nombreux pour le moment. Mais l'école démocratique est quand même toute neuve, donc on va voir si c'est une réaction justement à cette injonction qu'ils ont subie avant de ne plus s'intéresser aux mathématiques, ou si effectivement s'intéresser aux mathématiques, c'est pas quelque chose de forcément naturel. D'ailleurs, si vous regardez le nombre de traumatisés des mathématiques, on peut se demander si c'est si naturel que ça de faire des mathématiques, en tout cas des mathématiques complexes, au-delà de savoir compter et utiliser ce dont on a besoin dans la vie courante.
Donc c'est un vrai laboratoire d'expérience ici.
Oui, bien sûr. Alors on est dans la préparation hein, de ce nouveau paradigme dont on entend beaucoup parler, parce que je ne vois pas comment on pourra voir émerger ce nouveau paradigme si on ne remet pas en question la manière dont les enfants grandissent. Parce qu'ils vont... la manière dont ils grandissent vont forcément... les façonner et puis conformer leur comportement futur. Est-ce que j'ose lâcher mes conditionnements de quand on m'a dit que c'était bien si je suis un bon intellectuel qui va bien travailler à l'école, etc., etc., et que je grandis avec ça et que c'est le moyen que j'ai d'être reconnu, ben lâcher ça, ça va être très compliqué. Donc nous, on valorise ici des compétences et surtout des valeurs, hein, j'ai envie de dire, qui sont un petit peu différentes. Parce que quand on fait le diagnostic de ce qui se passe dans le monde actuellement, on peut regarder que ce qui fait cruellement défaut, ben, c'est vraiment des valeurs de paix, des valeurs universelles en fait. Et des besoins qui ne sont pas nourris, donc de sécurité, de respect, d'harmonie, de relations épanouissantes, de relations à soi, de connaissances de soi, etc. Donc tout ça va être valorisé parce que nous pensons que c'est comme ça qu'on va pouvoir transformer la société. Et pas parce que on va écrire de nouveaux décrets et de nouvelles lois qui vont dire ceci et cela. Ça peut aider, mais finalement, c'est un moyen davantage que l'origine de la source. La source, c'est vraiment que ce qu'on va pouvoir mettre à l'extérieur de soi, c'est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et pour que ça advienne, il faut qu'à l'intérieur de soi, on soit vraiment en paix et en confiance avec notre propre nature, finalement.
Et tout ça passe par l'éducation.
Alors, l'éducation, c'est un mot que j'aime de moins en moins. Et j'utilise de plus en plus accompagnement de l'enfant. Parce que dans l'éducation, c'est quand même un terme qui est extrêmement galvaudé.
La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine, à retrouver en kiosque tous les deux mois.